Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bienvenue pour ce 85e épisode, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Maxime Barbier, le cofondateur et CEO de Timeleft, une nouvelle application où vous pouvez vivre de nouvelles expériences en faisant de nouvelles rencontres. Contrairement aux applications de rencontres traditionnelles, Timeleft vous permet de créer des connexions dans un but clair et significatif, vivre une expérience fantastique ensemble. Le concept est simple, vous allez matcher une expérience avec une personne. Cette personne recevra l'invitation pour accepter ou non, et si elle accepte, une discussion sera créée pour programmer cette expérience. J'ai enregistré ce podcast avec Maxime à Lisbonne en août, c'est ici qu'il a lancé son application. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que c'est loin d'être sa première aventure entrepreneuriale. Il s'est lancé tôt, très tôt même, dès l'âge de 18 ans, dans un premier temps dans le monde de la nuit, et c'est en 2010 qu'il cofondera par la suite le média des millennials que vous avez probablement connu, Minute Buzz, le premier groupe média qui deviendra 100% vidéo en supprimant son site en 2016. La suite, vous le saurez dans cet épisode. Pendant cette petite heure ensemble, vous allez découvrir la création de Minute Buzz en 2010 avec son associé Laure Lefebvre, le switch visionnaire de Minute Buzz vers du 100% vidéo en 2016, le rachat par TF1 et son départ précipité, les 100 rêves qu'il a souhaité réaliser, la création de Timeleft en 2020 et la recherche du product market fit, ou encore le lancement à Lisbonne et les premiers milliers d'utilisateurs. Merci Maxime pour cet échange, c'était très cool, et un grand merci à Manon pour la recommandation. Avant de vous laisser avec cet échange, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut Maxime, comment tu vas ?
Mais je vais très bien.
Je suis très content de t'avoir dans le podcast. On est actuellement à Lisbonne. À la base, je suis en vacances, mais je travaille aussi un peu et je fais aussi des podcasts. J'en profite pour faire des podcasts parce que c'est toujours un kiff. Maxime, t'es le cofondateur de Timeleft. C'est une app de rencontre pas comme les autres où tu matches avec une expérience, mais aussi avec une personne. Donc un tour en montgolfière, un dîner sur le plus beau rooftop de la ville, la visite d'un musée, etc. Pour le moment, l'app est disponible uniquement à Lisbonne, en test. L'idée sera ensuite de lancer dans d'autres villes, j'imagine. On aura l'occasion d'en discuter. Moi, ce que j'aime bien démarrer sur le podcast, c'est de parler de ton parcours. Comment est-ce que t'étais quand t'étais petit?
C'est vrai, quand on me pose la question, j'ai souvent tendance à commencer à l'âge de mes 18 ans, où j'ai créé ma première boîte. Mais on peut rétro-pédaler un tout petit peu. Et je pense que pas grand monde le sait, mais... Très petit, j'ai toujours été passionné de sport en tout genre. Et à 14 ans, j'ai eu un rêve. Mon premier grand rêve, on va dire, c'est je voulais être basketteur pro. Donc j'ai fait beaucoup de basket de 14 à 18. Et j'ai monté les échelons jusqu'à arriver en niveau national. Et là, j'ai compris que je ne ferais pas carrière dans le basket. Et en même temps, petite pression familiale pour réussir cette épreuve du baccalauréat. Donc les deux, tu les mets ensemble. Et ce qui fait qu'à un moment, j'ai drop ce rêve de basketteur. Et heureusement, maintenant avec le recul, un peu plus de maturité. Et l'école, ça n'a jamais été trop mon truc. Alors ça va faire très cliché de dire ça, j'imagine t'en as entendu beaucoup en tant que podcast sur les entrepreneurs. Mais ouais, l'école et moi, on s'est un peu fâchés en quatrième quand j'ai retapé. J'ai vu tous mes amis monter d'une classe et moi rester au même moment. Et je me suis dit, ok, à l'école, tu m'aimes pas, bah, moi je t'aimerais pas non plus. Et ça a toujours été très difficile. Et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont supporté dans l'idée de monter ma première petite structure à 18 ans, où j'ai découvert un autre monde que celui du sport, qui est un peu antinomique, mais le monde de la nuit. Et pendant 7 ans, j'ai évolué dans ce monde de la nuit à Paris. Donc j'ai eu une boîte d'événementiel pendant toute cette période où j'ai organisé beaucoup de soirées, j'ai géré des clubs, des DJ, des choses comme ça. Donc j'étais vraiment un oiseau de nuit pendant 7 ans, ce qui a été une belle école à plein d'égards, sur apprendre à la confiance en soi, le public, le monde, toutes ces choses-là, mais c'est aussi un monde qui est très, et les clichés sont véridiques, hein, c'est un monde d'alcool, de drogue, de beaucoup de choses, et tu vis aussi à contre-courant avec les autres. Et donc à 25 ans, j'en ai eu un peu marre de faire ça. Et j'ai décidé de faire mon CV pour la première fois et de revenir dans un schéma plus classique. Je m'en souviens encore. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais faire dans la vie. Et je sais pas, la pub à l'époque me plaisait bien parce que j'avais voulu faire des, je sais plus comment on dit, un DUT, ouais, un DUT, ouais. Voilà, un DUT de pub. Et il m'avait envoyé une lettre. J'en souviens aussi encore où il m'a dit que j'étais même pas sur liste d'attente au vu de mes notes. Donc ils m'ont dit c'est pas pour toi. Et je me suis dit, allez, on va essayer de revenir à ça. Et donc j'ai fait des entretiens, j'en ai fait deux, McCann et l'autre, je me souviens plus de laquelle agence. Et on m'a expliqué que la première étape c'était de faire un stage non rémunéré. Et là, évidemment. Et là, 25 ans, quand t'as un peu travaillé et tout ça, tu te dis ouais, c'est quand même dur. Et coup de chance, ce même moment, je crée un premier blog parce que j'en avais marre de la télé. Alors c'est drôle parce que j'ai fini à la télé après, mais j'en avais marre de la télé, de la presse qui disent que toujours ça va mal, c'est tout le JT, c'est que des infos négatives en permanence. Et donc j'ai créé un petit blog qui s'appelait Minute Buzz, février 2010, le 11 février 2010. Et tu vas pouvoir me poser plein de questions, mais pour finir avec cette intro, ça a fait le plus gros chapitre de ma vie, parce que ça a duré quasiment 10 ans.
10 ans, ouais.
De 2010 à 2019, ça aurait dû finir en 2020, ouais. Mais mon cher actionnaire majoritaire en a décidé autrement. Et ce fut la plus belle chose qu'il ait pu me faire comme cadeau, de me virer du jour au lendemain, parce que ça m'a mis une telle claque que ça a complètement changé ma vie, et sur plein de sujets. À la fois personnel, mais ça m'a aussi surtout donné l'idée de cette nouvelle société qu'on a créée avec Adrien, qui est Timeleft. Je vais m'arrêter là, je vais te laisser poser des questions maintenant.
Juste avant de parler un peu de Minute Buzz et après de Timeleft, en fait, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat assez naturellement, très jeune, à 18 ans. La direction de l'entrepreneuriat s'est faite très naturellement, en fait.
En fait, je dirais pas que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je fais un peu l'image du sport. C'est à 18 ans, je me suis dit, allez, je vais faire ça. Tu vois, je vais monter mon petit projet. Et je trouvais ça trop cool à l'époque quand tu créais ton URL, t'allais d'aller dans le journal légal et tu vois, je l'ai encadré pour montrer à mon père et tout. Donc en fait, c'est plutôt, j'avais envie de monter un projet parce que je commençais à découvrir le monde de la nuit, puis je voyais qu'il y avait de l'argent à se faire, et puis au début c'était un peu du blague, puis à un moment on m'a dit ce serait bien que tu factures, donc il faut que je crée une structure, ok, je crée une structure. Maintenant que j'ai une structure, tu vois, je peux faire des frais, des trucs, ça gros. En fait, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Donc je me suis pas dit, allez, demain je me réveille, je suis entrepreneur. C'est au bout d'un moment, je me suis retourné, je dis ah ouais, je peux me décrire comme entrepreneur.
Oui, t'as pas conceptualisé l'entrepreneuriat, ouais, à ce moment-là. Et comme,
je pense qu'on devient entrepreneur, mais c'est comme si tu deviens LC ou sportif. C'est-à-dire, tu sais pas quand, mais au bout d'un moment, si tu continues à essayer, ouais, tu seras un entrepreneur. Mais tu deviens pas du jour en entrepreneur.
Bien sûr.
Et comme je suis intimement convaincu que tu deviens pas entrepreneur à la fin d'un master en entrepreneuriat, quoi.
Exactement. Et du coup, pour parler de Minute Buzz, donc cette aventure qui démarre en 2010, donc il y a bientôt 12 ans. l'idée étant de justement retracer un peu en résumé cette expérience qui a été super marquante dans ta vie. Finalement, c'est de la création de contenu qui est toujours aujourd'hui extrêmement tendance. Les créateurs de contenu sont aujourd'hui
plus que jamais.
Plus que jamais, voilà, tendance. Mais à ce moment-là, ça l'est clairement pas. Il y a des blogs, il y a de plus en plus de blogs, etc. Mmh. Mais toute cette partie social media, etc., n'est pas encore à son apogée. Comment ça se passe justement, ce début d'aventure chez Minute Buzz et le moment où ça explose, tu vois.
Minute Buzz, l'idée est venue de ce que je t'ai dit, de faire un peu une sorte de blog des bonnes nouvelles. Et donc tu crées un petit blog, et puis tu commences à poster du contenu. Puis comme issu du monde de la nuit, j'avais quand même un gros réseau parisien, j'avais 5000 amis sur Facebook à l'époque, j'étais dans les premiers, donc ça commence à faire un petit peu de bruit. Et en parallèle, je rencontre celle à qui j'ai vraiment fait une buzz, qui est Laure Lefebvre, et on a eu une idée de boîte ensemble. On s'est rencontrés dans une société dans laquelle elle travaillait. Moi, je faisais des petites prestations de community management avant que ça s'appelle comme ça. Et elle a voulu entreprendre et elle avait vraiment la structure. J'avais plein d'idées, mais j'avais pas de structure. Et donc, on s'est associés. On a une idée dans le social shopping à l'époque, 2010, c'était un peu les mots-clés. C'était l'iPhone 3, putain. En gros, elle voulait vendre son iPhone 3. Tu pouvais pas créer une fiche produit avec ton téléphone. Donc, j'ai dit, on va créer une app où tu peux prendre en photo des produits et tu vois, les poster sur les réseaux. Voilà. On lève 300 000 euros à l'époque. Je me dis, pour moi, c'était, j'avais gagné au loto.
Ce qui, à l'époque, était quand même une bonne levée de fonds.
Ouais, un PowerPoint, deux jeunes de 25 ans. Bon, tu vois, elle avait elle rassurait, quoi. Elle avait fait HEC, elle avait tout ce qu'il fallait.
Tous les codes pour le faire.
Voilà. Et moi, j'étais un peu le petit foufou. Et on lève 300 000 euros. On essaie de monter ce projet-là et on voit que ça va pas aller très très loin au final. Et en même temps, Minebuzz commençait à prendre de l'ampleur. Et au bout de quelques mois, je lui ai dit, j'ai dit aussi à nos actionnaires, en fait, là, on va aller dans le mur. Donc, ce que je vous propose, c'est, j'ai un petit blog là, il fait x2 tous les mois en termes de trafic. Et donc, on a utilisé l'argent qui restait de ce premier projet pour ensuite amplifier. Je me suis associé vraiment avec Laure. On est parti ensemble sur ce truc-là. Et les réseaux sociaux, même s'ils étaient assez présents dans ma vie, c'est vraiment quelques années après, hein, parce qu'on a créé ça en 2010, 2011, 2012, n'importe quoi, on cherchait, c'était vraiment blog classique, tu vois, création d'articles écrits, on essaie de faire du SEO, enfin voilà. Et c'est vraiment 2014, il a commencé à se passer un truc sur Facebook, ça a commencé à envoyer vraiment du trafic et tout ça. Et le gros passage, c'est qu'en 2016, on a été le premier média en Europe à décider de fermer son site internet et de croire à fond dans ce phénomène qui est que les réseaux sociaux allaient englober toute l'attention, quoi.
Se focaliser uniquement sur les réseaux sociaux, quoi.
Ouais. Et donc, en fait, on a misé tous nos jetons sur les réseaux. Donc, à l'époque, tout le monde disait, vous êtes des fous, vous allez être dépendant de Facebook. Sauf que Facebook, heureusement, c'était un peu la vague, c'était le bon cheval, quoi. Et le fait d'être à fond, ça nous a permis de mieux comprendre les codes. Mais on a fait aussi un truc très important que les gens oublient, c'est qu'on a fait le switch 100% social, mais on a fait aussi un switch 100% vidéo. Et en 2016, on était carrément les premiers, il y avait personne. Et donc, on faisait quand même 20 millions de visites sur le site. On a coupé le site du jour au lendemain. T'es arrivé sur le site, il y avait une vieille vidéo de moi. T'as hey, salut. Non, il y a plus de site. On est rendez-vous sur Facebook.
Petit coup de stress à ce moment-là.
Non, est-ce parce qu'il y avait que des doutes, non, ça faisait 3 mois qu'on bossait sur le sujet et le coup de stress a plutôt été l'inverse quand tu vois mon associé m'a dit ouais viens on laisse quand même le site, on sait jamais. Je dis non, on coupe quoi, on y va tu vois. Et ça a été un vrai soulagement. Parce que pendant 3 mois, il y en a qui nourrissaient le site pendant que d'autres faisaient le truc, tu vois. Donc à un moment, on s'est tous réalignés. Et puis on a commencé à faire nos vidéos. Et je crois que 3 mois après, on a fait la vidéo la plus vue en Europe à l'époque, qui a fait 100 millions de vues elle tout seul. On est passé de 100 000 abonnés à 500 000 abonnés. Donc tu vois, c'est ce qu'on dit. Quand tu trouves un peu ton market fit, t'as tout qui s'aligne. Et c'est comme si t'étais sur un bateau. Puis d'un coup, t'as le vent qui souffle dans la bonne direction et tu sens que t'avances, quoi.
Ouais.
Donc non, jusqu'à 2016, ça a été rock'n'roll. Et après, dans le sens un peu compliqué, fallait se trouver, on a eu des moments très durs. Et après 2016 jusqu'à 2019, à part le feu d'artifice en beauté où on s'est fait éjecter, mais sinon 2016, 2017, 2018, c'était incroyable. On est passé de 20 à 100 salariés, on est passé de 500 000 à 18 millions d'abonnés. Enfin, c'était la folie, quoi.
Ouais, en termes de stats, c'était non, mais je pense que Minute Buzz, toute une génération a connu Minute Buzz, moi y compris. Tu vois, je suis né en 1996.
Ouais.
Et c'est tombé pile poil sur la période où effectivement toute notre génération était ultra active sur Facebook, sur ses réseaux sociaux, etc. Instagram peut-être pas encore à fond, mais vraiment sur Facebook. Enfin, je me rappelle les publis Minute Buzz, on les voyait quasi constamment dans le feed, quoi.
Ouais, parce qu'il y avait peu d'acteurs et c'est ça qui a vraiment joué en notre faveur. C'est quand on a fait le switch en 2014 jusqu'à 2016, quand on était vraiment focus Facebook, les grands médias y croyaient pas, ou alors ils l'utilisaient juste pour faire du trafic et c'est tout. Et il y avait pas vraiment encore d'autres médias qui se sont positionnés. Tu vois, les Combini étaient là, mais c'était plus petit et Brut est arrivé après. Enfin, il y a plein de médias qui sont sortis, mais ils sont arrivés alors que nous on était déjà en place. Donc on a quand même bénéficié de ce côté un peu l'avantage d'être le premier, quoi.
Ouais.
Et là, maintenant, enfin, monter un média 100% vidéo sur les réseaux sociaux, c'est costaud, je pense.
Ouais, clairement. Bah, aujourd'hui, je pense qu'il y a des médias qui se lancent toutes les semaines.
Ouais.
Rien qu'en France, donc dans le monde, après, c'est hyper fat, quoi.
Ouais, et puis surtout, comment dire, c'est qu'il n'y avait pas les influenceurs à l'époque.
Ouais.
Et ça joue aussi. Parce que maintenant, les influenceurs, comme tu dis, avant, donc, on était les seuls médias, puis après, on était beaucoup de médias. Mais maintenant, t'as beaucoup de médias et t'as beaucoup de gens qui te prennent ton attention, parce que tu vois, tout le monde est influenceur maintenant. Et donc, la bataille pour choper l'attention des gens, costaud.
Et aussi en termes de matos, c'est-à-dire que potentiellement, il y a 10-15 ans, c'était difficile de lancer un média en termes de matos. Aujourd'hui, c'est assez simple. On a tous le matos pour se filmer, etc., facilement, et pour créer du contenu sur Internet, quoi.
Ouais. Donc, ça, c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'ai une image. Quand Facebook a lancé les lives, c'était en 2015, ouais. Je sais plus, tu sais, avec le premier gros buzz, ça a été BuzzFeed, ouais, qui a fait, oui, des pastèques malins. Et je me souviens, j'ai pris mon téléphone, on a commencé à faire live, et je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais. Je me suis dit, pour faire cette action de live streamer quelque chose avec ton téléphone, je sais pas, il y a 5 ans avant, tu vois, il te fallait un camion et limite l'antenne satellite.
Régie
de ouf, tu vois. Et là, tu faisais le truc et tu te dis, ah ouais, il y a eu un gros gap. Et en fait, ce qui a été intéressant dans cette période, c'est que comme nous, on était les jeunes à vouloir tester, innover, on a bénéficié de ces gaps d'innovation. Donc, on s'est retrouvé concurrent avec des gros qui, eux, avaient du gros matos lourd, etc. Sauf que maintenant, ce gap technologique, il est complètement aplati. Et tout le monde a un iPhone, tout le monde sait faire des lives, tout le monde sait tout faire. Donc, c'est même plus la différence, enfin, c'est plus l'agilité technique qui va t'aider à te différencier, c'est vraiment par le contenu, quoi.
Ok. Et donc, quelques années après, Minute Buzz se fait racheter par TF1.
Ouais.
Ensuite,
on y vient.
Exactement, on y vient. Comment ça se passe, ce rachat? Qu'est-ce qui se passe dans, pas d'un point de vue business, mais plus d'un point de vue état d'esprit dans ta tête? Tu vois, tu te dis, ok, je vends ce bébé-là. Est-ce que c'est une quelque chose que tu avais pour objectif de faire, ouais, quand tu as lancé Minute Buzz? Ou est-ce,
non,
que c'est arrivé?
Non,
comme
pas
ça.
Du tout. Pas du tout, parce que on était tellement en croissance en 2016 que quand ils sont venus nous voir, j'étais un peu en mode prétentieux. Écoute, la télé était sympa, mais je l'ai pas regardée depuis 10 ans. Vous êtes un peu des vieux poussiéreux. J'ai rien à vous dire, quoi. Et là, alors, qui est très forte, a dit, vas-y, on va quand même aller les voir. Et donc, les mecs, ils nous ont dit, oui, ça nous intéresse un peu ce que vous faites, tu vois. On se renifle. Il dit, ouais, ça vaut pas, on passe du temps ensemble. Et Laure, elle a fait, bah, déjà, on n'a pas que ça à faire, passer du temps avec vous. Donc, si vous voulez qu'on passe du temps avec vous, vous allez nous payer. Et donc, on a fait une mission de consulting pour passer du temps avec le top 15 de chez TF1. Donc, ça, c'était dingue. On a été payé pour faire ces rendez-vous-là. Et là, notre vision de TF1 a changé. Tu vois, on a rencontré des mecs smart. Et puis surtout, on a réalisé la puissance de la télé. Enfin, je veux dire, c'est quand même une boîte costaud. Même si maintenant, c'est un peu plus compliqué pour eux, mais à l'époque, costaud, tu vois. Et en parallèle, il y a peu de gens qui le savent, mais il y avait un truc qui était en train de se passer, c'était NBC et BuzzFeed. Donc, il y avait ce modèle-là où, en fait, BuzzFeed, un peu comme nous, média nouvelle génération, était en train de créer des trucs avec NBC, un peu ancienne génération. Et donc, on a commencé à bosser sur ce projet-là pendant un mois, 2 mois, et on a commencé à... C'était pas l'idée, c'était pas de vendre au début, c'était de s'appuyer ensemble. Tu vois, de se dire, bah, nous, on sait faire du social media, vous avez la puissance commerciale, vous faites des milliards de chiffres d'affaires, vous avez aussi la télé, on peut imaginer. Donc, on a créé tout un dossier qui, en fait, plus on avançait dans le dossier, plus on s'est dit, bah, en fait, c'est un rachat, en fait, hein, parce que, tu vois, vous allez prendre des parts, mais en fait, si vous prenez des parts, bah, à la fin, c'est forcément vous qui allez nous racheter. Donc, on a créé ce truc-là, ça a duré 3 mois. Ouais, ce qu'on s'est vu en septembre, et on a signé le deal, et on a annoncé ça au marché le 2 décembre. Donc, tu vois, ça a été assez rapide, au final. Et on a aussi vendu, parce qu'à un moment, bah, les valos deviennent très intéressantes, t'as le projet de merger plein de choses, ils vont nous, enfin, leur force commerciale vont vendre du Minute Buzz, donc t'imagines avec toute la force commerciale TF1, tu vois. On s'est dit qu'on allait mettre du Minute Buzz à la télé, tout ça. Et donc, la première année se passe bien. Et ils nous ont aussi donné beaucoup de moyens, donc on a eu des millions à investir sur les 3 années. Et on s'est donné 3 ans pour ce qu'on a fait en earn out. Donc, on a vendu une grosse partie, on a sorti les actionnaires la première année, et après, on s'est dit, bah, on donne 3 ans. Et on devait, pendant 2 ans, construire un beau bébé, plus fort, plus robuste, et être valorisé sur la 3e année pour ensuite sortir. Et c'est là où la première année, ça a été le feu d'artifice. Donc, on est passé de 30 à quasiment 100. Donc, il y avait, je crois, un mec qui arrivait tous les lundis en CDI toute l'année. On avait passé de 100 mètres carrés de bureau à 1600 mètres carrés Canal Saint-Martin. On s'est mis à faire du tournage. Parce qu'en même temps aussi, Facebook a commencé à envoyer des signaux. On veut plus que vous fassiez de la curation. Vous devez être producteur. Donc, on s'est mis à produire et tout. Et donc, super année 2017, 2018. Et ouais, jusqu'en 2019, où en fait, ça se passait un peu mieux que prévu. En tout cas, d'un point de vue structurel. Et c'est là où on a appris. Et d'ailleurs, on a fait un blog sur Internet sur les learnings qu'on a eu à propos de ça. Et tous ceux qui sont sur le point de revendre un actionnaire majoritaire, je vous conseille d'aller lire ça. Mais globalement, il y a une sorte de désalignement qui se crée lors d'un earn-out potentiellement. C'est-à-dire que bah toi, tu veux maximiser la valeur de ta boîte parce que c'est dans ton intérêt. Donc, maximiser la valeur, quelque part, c'est avoir une boîte qui est mieux, hein, par définition. Sauf que, bah, le mec qui est dans ton capital, c'est l'acheteur. Donc, il a pas, enfin, il veut que tu valorises, oui, mais tu veux un moment pas trop non plus, quoi. Et donc, on s'est fait sortir le 15 octobre, avec mon associé en 5 jours. Merci, au revoir. Et, donc, c'est comme quoi, dans la vie, il y a une phrase qui est maintenant mon mantra, c'est dans la vie, il faut avancer sans savoir ce qui va se passer. Et tu peux comprendre que en regardant dans le passé, tu vois. Et sur le coup, je sors de la tour, je suis en larmes. Enfin, on m'a dépossédé de tout ce que j'avais au bout de 10 ans, 100 heures par semaine, tu vois. Et là, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma life. C'est vraiment le point dans ma vie d'entrepreneur qui a tout changé. Et en fait, 3 ans après, je peux te dire qu'il a tout changé en mieux, quoi. Et
ça, tu t'en rendras compte après. Normalement, on s'en rend compte après.
C'est une analogie à la con, mais je sais pas, tu te sépares d'une relation et c'est horrible. Et en fait, tu découvres peut-être la femme de ta vie après et tu dis, bah, en fait, j'ai bien fait, tu vois. Bah là, c'est un peu la même chose. Timelapse, c'est la belle histoire où tout est mieux, quoi. Tu vois, vraiment, tout est mieux, quoi. Et donc, je suis content. Et quand TF1 m'a tout dépossédé du jour au lendemain, c'est là où j'ai flippé parce que, dans nos sociétés, t'es identifié par ce que tu fais. On te dit pas comment ça va, qui tu es, on dit tu fais quoi dans la vie. Donc d'un coup, bah, j'étais entrepreneur, mais si tu veux, je suis plus à la tête de Minute Buzz, t'as moins de rendez-vous, j'avais plus de mails, plus rien, plus de rendez-vous, plus de salaire, plus rien. Donc c'était vraiment genre le vide extrême. Donc là, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse vite, faut que je recrée un truc. Donc évidemment, t'es appelé par toute l'industrie, qui sont très contents d'avoir un mec, tu vois, à potentiel, pour recréer un média, rejoindre une agence.
Que toi, t'as pas envie.
Et toi, tu te dis, mais attendez, j'y retourne plus, hein. J'ai compris la leçon. Et Raphaël, d'ailleurs, je le cite à chaque fois, je sais pas s'il m'écoute, mais je le connaissais pas, et il m'a demandé un rendez-vous sur LinkedIn, parce qu'il a appris que j'étais dehors, tu vois. Et moi, j'ai eu le réflexe d'aller sur son LinkedIn, me demander, mais qui c'est, tu vois, est-ce que j'ai du temps à lui consacrer? Tu sais, le réflexe d'entrepreneur busy, voilà. Et là, je me regarde, je suis tout seul chez moi, je me dis, bon, ouais, je vais aller le voir, tu vois. Et on passe un super déjeuner, super gars, vraiment super gars. Et il me dit, tu devrais faire ça plus souvent, rencontrer des inconnus, sors-toi l'esprit, ouvre ton horizon. Et sur le coup, je dis, c'est quoi, t'as raison. Et sur le déj, je fais une vidéo, je dis, les 100 premières personnes qui ont me demandé de prendre un café, je dirais oui. Et donc, j'ai fait 100 cafés avec 100 inconnus. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et la première, c'était que j'avais oublié de rêver. J'avais oublié de vivre quelque part. Et donc, fin 2019, quand on s'est arrangé financièrement avec TF1, juste avant Noël, le lendemain de Noël, bah, j'ai fait une liste de 100 rêves et je suis parti à la conquête de mes rêves. Et ouais, c'est ça qu'a donné l'idée de Timelapse.
Eh bien, ma question d'après, c'était qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu quittes cette tour TF1 à la création de Timelapse, et au final, c'est effectivement cette période de rencontre et ce challenge de 100... sans choses à réaliser. On va en parler. Sur les rencontres, je trouve ça intéressant et on en parle très souvent dans le podcast. Moi, ce concept-là, j'en ai beaucoup parlé dans les épisodes, et notamment dans l'épisode numéro 2 du podcast avec Ludovic Hureau, je sais pas si tu vois qui c'est.
Ouais, que je connais.
D'Attractive World et qui a ensuite créé Shaper. Et en fait, lui, base une partie de sa vie sur la sérendipité et sur le fait de rencontrer des gens justement, et que ces discussions vont créer d'autres choses. Et si ça crée des choses, tant mieux. Si ça en crée pas, tant pis. Et c'est vrai que c'est un super concept de vie, je pense, outre la partie business, tu vois, juste sur le côté, ok, rencontrer un maximum de gens, etc. Et du coup, c'est relié à Timelapse, forcément.
Ouais, et je le recommande souvent. Alors, à l'époque, j'étais suivi par beaucoup de personnes, donc c'était facile d'avoir ces 100 personnes qui ont topé à ma porte pour prendre un café. C'est sûr qu'aller dans la rue, à boire un inconnu, c'est un autre challenge. Hein. Mais je l'ai fait plusieurs fois maintenant, et depuis 3 ans, toutes les semaines, je fais des dîners entre inconnus. Et demain, j'en ai un aussi, on sera une vingtaine. Et j'ai vraiment maintenant... ce truc de chaque semaine rencontrer des gens inconnus d'univers différents, donc j'ai la chance d'être connecté à plein de gens, et donc ça aide, tu vois, mais de mettre ensemble des gens qui se connaissent pas. Donc déjà, à un moment, je me suis demandé, mais c'est tout le temps sympa, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le point commun? Et en fait, par définition, quand t'acceptes d'aller dans un dîner où tu connais personne, bah quelque part, bah ça, tu vois, il y a une certaine ouverture d'esprit, et ça fait des super rencontres. Et moi, ces 100 cafés ont changé ma vie, et je l'ai refait d'ailleurs une année après, où en fait, quand j'arrive dans une ville, tu sais, je trouve les groupes Facebook, les Français à Lisbonne ou les Français à Austin ou whatever, et je poste ce truc, je dis voilà, café avec des inconnus, et les gens sont très réceptifs, hein. Et vraiment, quand quelqu'un accepte de te rencontrer pour un café, alors qu'il te connaît pas, franchement, t'en tires quelque chose.
Ouais.
Et sur les 100 cafés aussi, j'étais vraiment dans une démarche de je sais pas ce qui va se passer, j'attends rien, donc tu vois, voilà. Et franchement, sur les 100 cafés, il y en a peut-être eu 2 où c'était un peu bizarre. Mais tu vois, enfin, c'est que 2%, quoi, tu vois. Le reste, c'était très bien.
Ça fait partie du jeu.
J'ai été invité à faire la route des vins, j'ai découvert des amis qui sont encore des amis maintenant, tu vois, et surtout, ça fait un miroir, tu vois, c'est intéressant aussi.
Ensuite, sur les 100 challenges, est-ce que tu peux me parler un peu de ces 100 challenges et de me dire un peu ceux qui t'ont le plus marqué?
Ouais.
Et qu'est-ce que toute cette expérience t'a apporté?
Bah, Je l'assimile vraiment à une aventure de vie. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant. J'en ai réalisé 71 avec des petits et des grands et des non prévus. Et maintenant, je pense vraiment que la bucket list, alors ce mot il est très cliché, mais alors disons, mettre sur papier les choses que t'as vraiment envie d'accomplir dans ta vie, je pense que c'est un des meilleurs outils de développement personnel qui peut exister, parce que ça te sort vraiment de ta zone de confort et ça t'emmène dans des endroits où je pense que tu dois aller. Bon, pour ceux qui savent pas, j'ai un tatouage sur mes bras, mais qui représente un peu le temps qui me reste, time left. Et j'ai compris il y a quelques années que on a une vie limitée, que la vie est courte. Et donc ça m'a un peu remis vivre le moment présent, profiter de l'instant, etc. Mais l'autre chose aussi que j'ai compris, même si pendant des années j'étais à fond sur la productivité, être le plus efficient possible, à faire des semaines en bloc, tac tac tac,
mood la startup,
quoi. Ouais, faire en plus, j'ai pas le temps. Et en fait, c'est une illusion parce que de toute façon, tu pourras pas faire tout ce que tu veux dans ta vie. Et donc, l'idée, c'est de vraiment prioriser ce qui est important pour toi à l'instant où c'est important pour toi. Et quand j'ai fait cet exercice, et je vous recommande à tous ceux qui écoutent ce podcast, même si vous n'allez pas au bout, juste l'exercice en soi, de se poser un soir, petite musique, petit verre de vin, tac, feuille de papier, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie? Et moi, c'est une question que je pose le plus aux gens que je rencontre. Et souvent, majoritairement, les gens sont bloqués. Mes rêves, t'as envie de faire quoi dans les 2-3 prochaines années? Je sais pas. Et en fait, si tu sais pas, peut-être que tu vas y arriver, mais peut-être pas. Et en fait, il y a un bouquin qui s'appelle Les 5 regrets des mourants. C'est ça, c'est d'arriver à la fin de ta vie en ayant regretté tout ce que tu vois. Et donc, c'est cet exercice de 100 rêves, j'en ai réalisé des cools. Donc, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc. À chaque fois, j'essaye de prendre une peur. Donc, j'ai jamais trop su nager. Donc, j'ai fait un demi-Ironman. J'ai eu peur de me battre. J'ai fait un combat de boxe amateur après 7 mois de préparation. Je voulais savoir ce que c'était d'être un ultra-runner. Donc, le 1er mai, là, récemment, j'ai couru 100 km en une journée. J'ai fait 1 million de sauts à la corde à sauter, j'ai soulevé 2 fois mon poids de corps là récemment, qui est mon dernier challenge que j'ai accompli il y a 2 semaines. J'ai fait aussi des trucs plus cérébrales, j'ai appris une langue, je suis en train de lire 200 livres en 1000 jours, donc j'ai lu un bouquin toutes les semaines, Rubik's Cube, le handstand, l'acro-yoga, j'ai aussi testé tous les psychédéliques, j'ai fait des trucs un peu loufoques comme une vision quest, 4 jours dans la jungle à côté d'un arbre sans bouger, sans boire, sans manger ou vipassana en silence pendant 10 jours à méditer 10 heures par jour. Donc il y en a qui sont très à ma personnalité, un peu extrême, un peu, tu vois, aller toujours un peu plus loin, mais c'est des, ouais, en tout cas ma vision de la vie, c'est que c'est ça, c'est une série de choses que tu fais, de moments de vie qui t'emmènent où t'es, tu vois. Et sur mon tatouage, c'est des points, pour ceux qui pourront aller voir sur mon Instagram, c'est des points, mais en fait, je me suis toujours dit qu'il fallait aller le plus loin possible sur le trait, tu vois. Mais pour avoir maintenant des expériences autour de moi, que ce soit mon père ou mes grands-parents, en fait, c'est pas le nombre de points que t'as sur le bras qui compte, c'est la vie que t'as à l'intérieur de chaque point. Et ça, je pense que c'est important. Et je vais finir juste une phrase que j'ai entendue, je sais plus dans quel podcast. Il dit, c'est Denzel Washington, à une remise de trucs sur une université, il disait, en fait, à la fin de ta vie, t'as plein de rêves qui vont venir te voir et qui vont te demander pourquoi tu les as pas réalisés et qui vont juste être énervés d'aller avec toi dans la tombe. Et je trouve cette image, elle est belle. Qu'est-ce que t'as envie de faire maintenant? Parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire maintenant que tu pourras plus faire après. Ton rêve, c'est de faire le Kilimanjaro. Tu peux à 30 ans, tu peux à 35, 50, tu peux peut-être 50. Puis à un moment, c'est mort. Et donc, tu vois, et encore, on en revient à l'important, c'est pas de vouloir tout faire, c'est de vraiment se demander ce que t'as envie de faire dans ta vie.
Il me reste quelques années pour le Kilimanjaro.
Non, mais on rigole. Toute ma philosophie est basée sur une question à la con que je me suis posée le jour de mes 31 ans. J'ai demandé à Google combien de temps il me restait à vivre. J'aurais jamais dû, peut-être.
Donc c'est basé sur une moyenne.
Donc espérance de vie d'un Français à 82 ans. J'ai 31 ans. Je crois qu'il me reste 660 mois à vivre. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup 660. Et donc, ça m'a mis dans ce chemin de ça, quoi, tu vois.
Ouais. Oui, et puis c'est surtout combien de temps en bonne santé aussi, tu vois, parce qu'il y a les aléas de la vie, etc. Donc c'est super, c'est une question, c'est pas une question à la con, c'est une question très large, et effectivement, quand tu commences à te la poser, c'est que t'as envie de profiter un maximum de la vie, quoi, factuellement.
Ouais, et on oublie qu'on va mourir un jour, mais surtout, on oublie que les actions qu'on met maintenant vont avoir un impact plus tard, c'est-à-dire... faut pas être un extrémiste dans la nutrition, le sport et tout, mais il y a des basiques quand même à connaître, tu vois. Et moi, en 2020 et 2021, j'ai pris cette énergie, donc dormir, manger, boire, le sexe, la spiritualité, et j'ai tout essayé. Et je pense qu'il y a vraiment des trucs qui devraient être plus communiqués au plus grand nombre, mais Ouais, t'as 30 ans, tu peux manger un peu de la merde, tu peux faire un peu moins de sport, et puis si t'as pris 3-4 kilos, c'est pas grave. Mais ça, répéter, en fait, si tu prends la direction, et malheureusement, j'ai de la famille très proche, ouais, avoir 20 kilos de trop, à 70 ans, il y a un truc qui pète, et en fait, les 10 dernières années de vie qui te restent, c'est pas celle que tu pensais, quoi.
Ouais. Tu vois. Aujourd'hui, t'es à 70-71 challenge, il te reste quoi un peu là dans ton top
Alors, j'ai triché un peu sur les 30 derniers parce que je les ai remixés avec une nouvelle liste qui est les 40 trêves avant 40.
Ah, nice.
J'ai 37 ans et il me reste 3 ans. Je me suis allé, je vais en faire 40 avant 40. Donc, j'ai repris un peu ceux qui restaient. Et après, c'est une liste qui évolue. Tu vois, quand je l'ai créée, il y avait des trucs qui me correspondaient à l'époque. Déjà, j'avais un peu de manque d'imagination pour aller jusqu'à 100. Donc, j'avais des trucs, voler en jet. Tu vois, le truc un peu con que j'ai complètement viré. Et j'ai remis d'autres trucs. Puis après, c'est comme le sport ou l'entrepreneuriat. C'est qu'au bout d'un moment, à force de dire oui à des trucs, à de réaliser des choses, t'es plus ouvert, tu vois. Ouais, viens, on va faire ça. Ok. Tu vois, viens, on va s'enfermer dans la jungle pendant 4 jours. Bon, peut-être pas du tout laver. En gros, ouais, pourquoi pas? Ça va être cool, tu vois. Et ça crée une sorte d'énergie positive qui, d'ailleurs, je pense, attire aussi ce genre de choses, tu vois.
Ouais, c'est modulable et ça évolue au fil du temps, quoi. Mmh. Tu fixes pas cette liste à un âge et tu te dis, ok, je vais absolument faire cette liste. Non, elle évolue aussi en fonction de tes envies, en fonction de toi, quoi, finalement. Ouais. On est parti un peu hein, sur
c'est normal sur l'entrepreneuriat.
Non, c'est normal et je pense que dans les 15-20 derniers épisodes, on parle beaucoup aussi philo et de vie, etc. Je pense que c'est extrêmement important et de pas que parler business finalement. Et on va parler de Time Left, qui est un peu le sujet principal du podcast et un peu ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc tu crées cette app en 2020. Comment ça se passe le moment où tu dis ok, j'ai envie de créer cette app, et c'est quoi cette première version de Time Left qui, du coup, j'imagine, n'est pas la même qu'aujourd'hui?
Pas du tout. Je finis quand même essoré fin 2019 par toutes les aventures de 10 ans, de Minibus, TF1, tout ça. Et donc, le 26 décembre 2019, je réalise mon premier rêve, donc partir seul à l'étranger. Donc, je pars en Australie. Coup de bol, c'est un peu the place to be en début de pandémie. Et vers mars, la pandémie arrive. Les gens pensent que ça va durer une semaine, puis deux, puis trois. Puis moi, j'étais en Australie, je continue à réaliser les rêves, courir torse nu sur la plage. Et il y a une animosité qui a grandi très fortement dans les gens qui me suivent. Tu vois, genre, comment tu peux te travailler torse nu sur la plage alors que nous, on est enfermés à Paris et tout. Et donc, j'ai senti qu'il y avait une sorte de dichotomance. Dichotomance, j'ai sorti un mot compliqué. j'espère que c'est le bon. Et en gros, moi, je me suis dit, il y a un truc, les gens sont enfermés chez eux, c'est une sorte de vipassana forcée, ils sont en train de se poser plein de questions, ils sont déprimés, c'est quoi mon job, c'est quoi ma vie. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ce côté bucket list, si tout le monde pouvait faire cet exercice-là, ça serait top. Je trouve le nom, Time Left, tu vois, rapport avec toute la philosophie qu'on vient d'expliquer, tu vois, qu'on boucle, hein, mais on y arrive. Et donc, la première idée, et heureusement, j'ai lu des bouquins sur tout ce qui est le prétotypage, commencer doucement, tu vois, on en revient toujours à la même chose. Au lieu de partir full avec une agence ou quoi, on a fait un petit MVP. C'est là où j'ai appelé Adrien, qui était mon directeur marketing chez Minibus, qui, petite dédicace, hein, je leur dis, mais on le sait, on raconte l'histoire maintenant. Mais quand je suis parti, je lui dis, voilà, tu seras la première personne à qui je vais proposer une histoire si j'en recrée une. J'ai tenu parole. Et on crée un petit MVP tout simple, en fait, mets tes rêves, et quand tu mets tes rêves, tu peux voir les rêves des gens, et c'était un truc, enfin, c'est tout bête, hein, tu pouvais soumettre un rêve, donc tu mets ton nom, ton rêve, ta catégorie, et c'est tout. Puis le premier jour, 100 personnes, puis le deuxième jour, 500, puis à un moment, on a commencé à avoir 5000 rêves soumis en quelques jours, tu vois, on s'est dit, ah, y a un truc à faire. Mais en même temps, ça fait 4 mois que je suis en train de réaliser mes rêves, j'avais prévu de prendre une année sabbatique, mollo tempo, tu vois. Donc on bosse un peu sur le sujet, mais moi je voyage, je vais en Nouvelle-Zélande, je fais des trucs. Enfin, en 2020, j'ai vraiment fait que voyager. Alors, ça peut paraître bizarre, mais voilà. En septembre 2020, avec Adrien, on se dit, tu sais quoi, je pense qu'il y a un vrai truc, viens, on y va, quoi. Moi, il fallait que je fasse un réinvest d'argent, on avait un peu de sous, lui, il voulait quitter Minibus, il voulait monter sa boîte. On mélange le tout, boum, en septembre 2020, on crée Time Left. On continue sur cette idée de bucket list. On pousse, on se dit, il y a vraiment un truc à faire, sauf que on s'est très vite rendu compte qu'on était, en fait, un outil. C'est-à-dire, t'arrives sur Time Left, tu crées ta bucket list, elle est faite, c'est, t'as plus besoin de nous, en fait, parce que ta bucket list, elle va pas changer du jour au lendemain. On itère, on fait toutes les erreurs possibles, on prend une agence, on part sur des trucs très compliqués, on rajoute plein de features parce qu'on pense que c'est des features qu'il faut rajouter pour faire marcher le produit. Et en septembre 2021, donc un an après, on trouve une idée, on se dit mais tu sais quoi, en fait on a le rêve des gens quand même, ça a une valeur le rêve des gens, et s'ils avaient envie de parler à quelqu'un qui partage les mêmes rêves, oh, idée de ouf, je trouve trouve un mec, on me présente un mec, rien à voir avec Timeleft, on me dit Hugues, d'ailleurs Hugues, t'as changé la vie de Timeleft, encore big up à toi. On me présente ce mec, ouais, il est dans le même esprit que toi, entrepreneur, sportif, rencontre-le, on parle, super feeling, et à la fin je fais, tu fais quoi ? Il dit, bah moi je suis partenaire dans un des plus gros fonds d'investissement d'Europe. Ah, et toi ? Bah moi je suis entrepreneur, j'ai une boîte, on va peut-être lever des fonds. Et bim bam boum, il me présente le boss de son gros fonds. En 30 minutes, je lève 500 000 d'euros, s'enchaîne des rendez-vous. Et en fait, en un mois et demi, on a levé 2 millions. Et on s'est dit, bah ok. On s'est dit 2 millions pour développer une idée qui n'était pas développée. Hein, parce que c'était juste moi avec ma casquette, j'étais au Mexique en plus pendant les moments en Zoom. Bah vas-y, on y va. Donc on va aux États-Unis, on lance cette idée de dream matching kind of. Ou dis-moi de quoi tu rêves, je te montrerai des personnes qui ont les mêmes rêves. Même à accueil, oh my god, this is amazing. Donc nous déjà on découvre les États-Unis. Alors ça c'est une belle expérience, un painful parce qu'on a perdu beaucoup d'argent et du temps, mais quel apprentissage. T'arrives aux États-Unis donc déjà t'es personne, mine buzz, connais pas, oublie-toi. Ça coûte cher, mais quand je te dis ça coûte cher, c'est dément. Les salaires, la vie. On a choisi Los Angeles, hein, ouais. Parce qu'on s'est dit c'est sympa, il y a la mer. Erreur. Et on va là-bas et donc on lance le truc, on pousse, ça marche pas. Pareil, les gens ils disent, enfin c'est sympa, je match à quelqu'un qui a les mêmes rêves que moi, mais en vrai, ok, tu veux aller en Alaska et moi aussi, cool. Qu'est-ce qu'on se raconte? Bah je sais pas, t'as un plan? Non, j'ai pas de plan. Tu veux le faire demain? Non. Bon. Et donc la rétention était vraiment pourrie. On revient à Noël, on est dit ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On essaie de changer, on évolue 2-3 trucs, l'onboarding, tu vois machin. Allez, on retourne aux États-Unis, sauf que là, on a fait un truc qui est malin, que je recommande à tout le monde, c'est qu'on a fait une analyse de toutes les villes des États-Unis, en termes de salaire, de jeunes, de célibataires, de tout plein de choses. On s'est dit, mais en fait, tout le monde va à New York et Los Angeles, c'est super concurrentiel, c'est super cher. Il y a des villes de seconde zone qui sont très bien. Seattle, Austin, tu vois, Denver, ou des choses comme ça. Et donc, on est parti à Austin, super ville. On reteste un autre coup, en disant, on va mettre un peu plus de moyens, parce que... Sans dire, ça va être un problème de moyens. On fait des OP marketing, je fais des soirées dans des clubs, dans des coffee shops. Enfin, tu vois, on y va. Oh, yalla. Bah, ça marche pas. Et heureusement, j'ai eu cette expérience pour l'avoir vécu plein de fois. J'arrive très vite à avoir pas d'ego et me dire, OK, c'est une idée de merde, on arrête, tu vois. Et le problème de beaucoup d'entrepreneurs, et pour l'avoir fait dans le passé, c'est que plus t'investis du temps et de l'argent, et plus tu veux pousser, tu vois, tu te dis, attends, on n'a pas fait tout ça pour ça, et tu continues jusqu'à temps que tu t'épuises, et c'est trop tard. Et là, on a très rapidement coupé. Au bout de un mois et demi, on s'est dit, c'est quoi, on arrête. Et dernière semaine de mars, on a tout coupé. On est, heureusement, pour le projet, tout le monde était en période d'essai sur les 3 salariés qu'on avait, on coupe les périodes d'essai, on quitte l'idée, je reviens à Lisbonne, on s'enferme à Lisbonne, ce qu'on vit tous les deux là, et on s'est dit, vas-y, faut qu'on pivote, quoi. Et Adrien, le lendemain, il revient, il me dit, ah, c'est quoi, j'ai une idée. Si on fait un truc avec des gens en haut et des expériences en bas. Et j'ai dit, mais c'est mortel, ça. Comment ça marche? J'ai dit, bah, c'est simple. Tu choisis des expériences que t'as envie de faire et tu choisis quelqu'un que t'as envie de faire, t'appuies au milieu, ça fait un combo. Vas-y, MVP, boum. Et heureusement, on a un CTO qui nous a rejoint en début d'année. Parce que ça, c'est vraiment le truc qu'il te faut quand tu montes une boîte tech. Le CTO, quoi, qui s'appelle Mathieu, qui est un Français qui vit au Mexique, qui est un tueur, il délivre de fou. On sort le truc. Allez, on regarde comment ça se passe. Un peu d'ads, on le fit dans les mains de 500 personnes et là, pouf, truc, il explose. Rétention de ouf, la moitié des gens reviennent le lendemain, des messages envoyés dans tous les sens. Et là, ça fait 2 mois et demi qu'on bosse dessus et on a notre market fit. Donc là, on réaccélère. Donc ouais. Comme quoi, les gens, ils voient là, puis ils disent, oh, c'est trop cool, tu l'as lancé il y a 2 mois. Ouais, mais ça fait 2 ans qu'on galère et on a fait 5 pivots quasiment. C'est le 5e pivot qu'on fait, tu vois.
Ouais, ok. Donc, voilà. Pour expliquer l'app aux gens qui ne seraient pas encore sur Lisbonne.
Je suis sur le petit pic.
c'est assez simple, le fonctionnement de l'app. Effectivement, comme tu dis, en haut, tu peux matcher avec une personne. Et en bas, t'as les expériences. Et en fait, tu matches avec une personne et une expérience.
Ouais, c'est la combinaison des deux. Voilà. Ouais, et donc, on n'est pas, c'est là tout notre enjeu en ce moment, c'est qu'on est sur aider les gens à recréer des rencontres, à recréer de la connexion. Ce problème, c'est que le mot rencontre, il est complètement galvaudé.
Ouais, de ouf.
Rencontre égale dating. Ouais. Et nous, on fait pas du dating. On fait vraiment de la rencontre parce qu'on a vu qu'il y avait un vrai pain point des gens à rencontrer des gens, tout simplement. En fait, qu'est-ce qu'on fait de nos jours? Bah, on sait plus trop aller dans la rue pour aborder des gens. Donc, si t'es célibataire, il te reste les apps de rencontre. Mais t'es biaisé parce qu'en fait, c'est la rencontre, ouais, dating. Et faire de la friendship, tu vois, genre, on a vu que les femmes, par exemple, avaient des vrais problèmes à rencontrer d'autres femmes. Et en tant qu'homme, c'est encore pire. C'est-à-dire, va sur BBF en tant que mec, pour l'avoir fait 2-3 fois. En fait, il y a un souci, c'est que généralement, tu rencontres des mecs qui sont gays et qui ont pas du tout le même intérêt que toi à vouloir être amis. Donc, il y avait tout ça. Et donc, Timeleft, en fait, arrive à point nommé pour aider les gens à se rencontrer par le biais d'expériences, de faire des trucs cool, quoi. Et en fait, on a complètement simplifié le process. C'est-à-dire que t'arrives sur Timeleft, tu choisis une expérience, tu choisis quelqu'un, tu dis, OK, si la personne dit oui, ça crée une conversation. pour organiser l'expérience. Et la première question, franchement, une fois sur deux, c'est on fait ça quand ? Mardi ? Oui, ok. That's it. Alors que sur les hommes de rencontre, c'est t'es qui, tu fais quoi, tu rencontres les machins, il y a des matchs partout.
Toute la partie chiante.
La partie chiante, mais qui mène souvent nulle part, tu vois. Et là, t'as un truc à faire. Donc le ice, c'est un icebreaker, c'est encore plus fort qu'un icebreaker. C'est le rendez-vous, il est là, quoi. Il est calé, il n'y a plus qu'à définir la date, tu vois. Et donc là, on a lancé ça en mai. En juin, on a eu 2500 personnes sur Lisbonne qui se sont rencontrées. Et là, tous les chiffres augmentent de jour en jour. Donc on est vraiment très content. Et donc là, on se remet à accélérer. On a 3 embauches qui viennent d'arriver et on repart, tu vois, sur quelque chose d'un peu plus véloce. Deuxième mot compliqué que je dans un podcast.
Donc l'app elle match parfaitement avec Lisbonne aussi, puisque c'est quand même une ville où il y a plein d'expériences à faire, où il y a une diversité de gens, une ouverture d'esprit aussi suffisamment forte justement pour faire ce genre d'expérience. Comment est-ce que vous avez sélectionné les expériences qu'il y a sur TimeLeft?
Ça c'est le alors je vais pas dire la secret sauce hein, parce que je vais t'en parler, t'inquiète, mais la vraie valeur de, donc nous on est une app, mais on provide deux choses à l'intérieur de cette app. On provide des gens, comme tu dis, open, des gens qui sont là avec une ouverture d'esprit, qui sont prêts à faire des rencontres, et des expériences super cool. Et les expériences super cool, on a un vrai travail de curation. On peut pas être un time out ou c'est sortir à Paris avec tout. Nous on a vraiment un côté sélectif. Et donc ce qu'on a fait au début, c'est que, alors les gens vont me dire ouais, arrête de dire ça, mais donc j'ai fait pendant un mois, je suis sorti tous les soirs. Donc ah bah t'as la chance, ouais, enfin au bout d'un moment c'est bien crevant quand même mon gars. Et pour avoir connu un peu Paris dans le monde de la nuit, je sais que, et encore c'est encore plus fort à Lisbonne, généralement l'ensemble des trucs cool est, je vais pas dire tenu, mais c'est tellement des petits cercles qui s'entrecoupent qu'au bout d'un moment, si tu connais une dizaine de personnes, t'es quand même au courant d'un peu tout. Donc ça a été la première étape, de connaître un peu les gens. Et ensuite, on a fait un appel d'offres pour des curateurs. On dit, écoute, si tu aimes sortir à Lisbonne, je te paye. Tu me donnes tes bonnes infos. Et donc maintenant, on a 10 personnes qui ont des yeux et des oreilles un peu partout dans la ville et qui nous remontent tous les trucs super sympas à faire. Et j'ai une city manager qui, en fait, sélectionne le meilleur de ça. Et donc tous les mois, maintenant, on publie 150 trucs à faire. La moitié des expériences sont évidemment sur manger et boire, donc les bars, les restaurants, les openings, les rooftops, etc. On a beaucoup aussi tout ce qui est culture, soirée, et on a aussi une grosse base maintenant de ce qu'on va appeler les bucket list, c'est genre les trucs qu'il faut que tu fasses quand t'arrives à Lisbonne, quoi.
C'est quoi toi l'expérience que t'as préférée?
Alors ça c'est le
question difficile.
Ça, c'est,
hein.
Ça, c'est, ouais, tu m'en poses des questions là. Ça c'est le côté cool. De mon job quand même, surtout pour quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, hein, je fais des expériences quasiment tous les jours maintenant, et toutes les semaines je choisis une expérience. Donc si vous êtes à Lisbonne, non vous serez pas à Lisbonne, mais en gros demain il y a une expérience qu'on va faire tous ensemble, donc toutes les semaines je choisis une expérience. Et il y a vraiment des trucs assez dingues. Qu'est-ce que j'ai fait de récemment? Bon, les restaurants, j'en ai fait beaucoup, mais ça, vous verrez sur mon Instagram. Il y a des soirées aussi incroyables à Costa de Caperica, tu vois, qui viennent assez régulièrement. Là, on a publié, il y a une retraite peyoté, donc un psychédélique en bord de Lisbonne. J'ai fait une, je crois pas qu'on l'avait mis, mais j'ai fait une psychothérapie assistée par MDMA aussi, c'était assez ouf. Il y a tout plein de trucs culturels qu'il faut faire aussi, que ça soit des promenades ou des rooftops ou des monuments à visiter. Donc non, très cool. Il y a une première usine éco-responsable à circuit court de mushrooms, ceux qu'on mange, hein, pas les ceux qui font rien. Enfin ceux que tu vois, tu peux donner à ta mère et à ta petite fille, hein, les mushrooms classiques. Hein. Donc voilà, il y a tout plein de trucs comme ça. Ah si, il y a un truc si vous venez à Lisbonne qui est ouf. J'espère qu'il sera encore là. Ça s'appelle le Palacio di Grillo et c'est une sorte de, bon c'est pas un palace, hein, c'est plutôt, ça ressemble à un palace, mais c'est assez abordable comme prix. Et en fait tu y vas et tu manges à l'intérieur d'une pièce de théâtre, et donc t'as des acteurs et très loufoques, très bizarres, qui font plein de trucs autour de toi. Donc en fait là, tu manges mais en même temps t'as un mec qui vient sauter sur ta table ou rouler par terre.
Super,
ça c'est un truc cool.
Moi, il faudrait
tout est sur TimeLeft, hein, évidemment Instagram. Exactement. Et là pour ceux qui ont un iPhone, choix stratégique,
c'est clair. C'est quoi les next steps un peu là, les prochains objectifs pour TimeLeft?
Lisbonne est ce qu'on appelle en interne le playbook. Donc c'est le guide de comment ouvrir une ville. Donc là on est en train de créer ce playbook. Ça veut dire quoi ouvrir une ville? Ça veut dire quoi ouvrir avec succès une ville? C'est quoi les différentes étapes pour arriver à ça? Donc là on vient de set up tout ce qui est les objectifs, tu vois. Donc on va devoir commencer à accélérer en termes de sign up, en termes de DAU. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le nombre d'utilisateurs qui viennent tous les jours actifs. Et stabiliser tout ça. Et une fois qu'on aura atteint un certain niveau, on va commencer à enclencher un business model, parce qu'à un moment, il va falloir qu'on ait de l'argent quand même pour nourrir en fait cette idée. Et une fois qu'on aura fait ce playbook, donc en termes d'usage, en termes de croissance et en termes de business model, on espère d'ici la fin de l'année, bah évidemment, on va aller chercher une ville de plus grande taille. Il y a Paris qui est évidemment coche plein de cases parce que moi j'ai mon réseau là-bas, je connais bien la ville, mais pourquoi pas Madrid ou Londres où je sais que les gens ont beaucoup de mal à faire des rencontres pour l'avoir vécu un peu. Donc voilà, donc playbook à Lisbonne et ensuite deuxième ville, et une fois qu'on a fait deuxième ville, bah après sûrement une série A et on repart aux US. Coucou, on revient. Mais cette fois on a un market fit.
Ouais, exactement, okay. Avec un produit plus solide et puis surtout des retours d'expérience d'utilisateurs, ouais, etc. Donc ça peut être cool. On passe à la partie bilan. Alors bilan pour cette aventure de Timeleft. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Comment ça?
La première qui me vient en tête, ça a été Austin au Texas, parce que on a fait le choix que je parte tout seul. Donc l'équipe était ici à Lisbonne et à Paris et moi je suis parti tout seul avec. C'était l'expression avec ma bite et mon couteau, et j'avais pour but d'ouvrir cette ville, donc de faire connaître Timeleft, et les premières semaines ont été très très dures. Déjà, il faut ravaler son ego et vaincre sa peur d'aller aborder des gens dans la rue, d'aller essayer de négocier des partenaires avec des coffee shops qui juste qu'on a rien à foutre de toi. Et ensuite, il y a eu cette phase où j'ai fait un événement dans un coffee shop et je suis resté 8 heures dans le coffee shop et j'ai parlé à 10 personnes, tu vois. Et donc, tu rentres chez toi et tu te rends compte que les 10 en plus, elles réutilisent pas l'app. Enfin, t'es là, mais qu'est-ce que je fais là, quoi, tu vois. Et puis, t'es tout seul et tout. Donc, ça a été un peu dur. À la fin, heureusement, j'ai réussi à créer un réseau amical. J'ai rencontré des filles et ça a aidé un peu, tu vois, voilà, sur la partie personnelle. Et après, j'ai pris un experience manager qui m'a aidé à faire des événements. Mais pareil, on forçait, c'est-à-dire qu'on a fait 2-3 événements. On en a fait 2. On s'est associé avec une marque de joints. Et en fait, si tu t'es chargé de Timeleft, on te donnait un joint. Donc le mec, il m'a filé 500 joints. On a fait un événement, une soirée et tout. Donc c'était, je distribuais des joints et j'avais plein de downloads. Mais pareil, les mecs, ils téléchargeaient pour le joint. Donc le lendemain,
ouais,
il y a pas de... Donc il y a eu un petit côté passage à vide et le retour à Lisbonne. Tu vois, la queue entre les jambes, quoi. Ça, en fait, on a dépensé quand même, tu vois, facile 50-100K et donc ça a été assez dur. Et ça, c'est plus lié à moi, mais ça a duré 2 ans quand même. Donc la première année, ça te dérange pas trop. Puis au bout d'un moment, tu te dis putain, ça fait 2 ans quand même, tu vois. Et puis tu vois le cash qui diminue. Donc quand tu lèves 2 millions, c'est cool parce que avec une petite équipe, t'as ce qu'on appelle le runway, c'est le nombre d'oxygène qui te reste, mais t'as 30-40 mois devant toi. Puis tu commences à accélérer, tu fais 2-3 erreurs, un Austin par-ci, un Los Angeles par-là, et puis d'un coup t'as plus que 30 mois devant toi, puis après t'as 25, et donc t'as ces passages à vide où tu te sens un peu seul, où ça marche pas, puis tu vois que en fait le cash il diminue, tu vois, à vue d'œil en fait, hein. Et donc là tu commences à paniquer, et puis t'as un pivot, un deuxième, un troisième, un quatrième, et heureusement le cinquième là il a tout changé, donc so far so good.
Est-ce que indirectement il y a pas aussi une pression de sortir d'une expérience entrepreneuriale entre guillemets réussie en termes d'aboutissement?
Ça c'est une super question,
tu vois,
et je suis content que tu la poses parce que je trouve qu'elle est c'est un truc qu'on j'ai jamais entendu cette question là parce que il y a un truc que les gens enfin qu'on a que j'avais pas confiance conscience pardon, c'est la pression que t'as en tant qu'entrepreneur successful. Alors, toute proportion gardée, hein, c'est pas une question d'ego, mais j'ai quand même fait un truc sympa. Et t'arrives sur le marché et tu te mets une pression, tu te dis putain, tu vois,
je suis obligé de réussir,
tu vois, j'ai fait un truc gros, on l'a vendu valorisation à, tu vois, à 8 chiffres tac tac et ou 7 ou 8 et t'es là, tu vois, et tout le monde t'attend et tu te mets toute seule une pression et tu dis mais attends, je peux pas monter ça, faut que ça soit encore plus gros, faut que ça, tu vois, faut que le marché soit plus, enfin c'est assez dur. Et en fait c'est encore moins dur que l'autre facette pour avoir des entrepreneurs à côté de moi, c'est que bah tu restes complètement bloqué et tu fais rien. Donc il y a le côté où t'as peur, tu te lances. Moi je me suis lancé dans Timeleft, tu vois, j'ai remis toutes mes billes dans l'aventure, donc tout le réinvest que j'avais, j'ai tout remis dedans. Tu lèves facilement de l'argent parce que comme t'as la cartouche de l'entrepreneur successful, bah tu vois, tu lèves 2 millions d'euros facile et tout. Donc ok, putain, maintenant faut que j'assure. Donc t'as une vraie pression. Mais en fait le pire, je pense, c'est l'autre, c'est quand il se passe des mois et moi je suis content parce que j'ai remonté, tu vois, 4 mois après. Mais je connais des gens, ça fait 1 an, 2 ans, et au bout de 2 ans, bah tu vois, te remettre en selle, c'est, en fait, c'est plus t'attends, je pense, plus c'est dur.
Ouais. Ouais, il y a des gros passages à vide justement après cette typologie d'expérience où effectivement il y a une sortie potentiellement qui se passe, mais même si elle se passe bien, même si elle se passe mal, l'après en fait est d'autant plus difficile de effectivement est-ce que je recrée une boîte, je recrée un business, est-ce que je recrée une start-up, est-ce que je crée une agence ou est-ce que je retourne dans le salariat? Généralement, dans la majorité des cas, c'est quand même une nouvelle boîte. Mais du coup, il y a effectivement d'autant plus de pression que le premier business où effectivement où t'as finalement rien à perdre. Ta première boîte, t'as rien à perdre parce que t'es personne entre guillemets et t'as tout à faire. Alors qu'effectivement, quand t'as un bagage de 10-15 années d'entrepreneuriat derrière qui ont abouti à certaines choses, forcément, t'as plus de pression, quoi.
Bah on dit la phrase que j'ai souvent entendue, c'est que c'est plus facile de lever sur son futur ou de que les gens croient en toi sur ton futur que sur ton passé. Tu vois, quand tu vas lever de l'argent, par exemple, si t'es un entrepreneur et que t'as rien fait, t'as 25 ans, t'es tout feu tout flamme, ok, t'es un futur potentiel, ok, on te donne de l'argent. Quand tu as monté deux boîtes, s'il y en a une qui a pas marché, d'un coup ça devient plus compliqué, tu vois. Et un autre truc aussi que j'ai découvert pour avoir parlé avec pas mal d'entrepreneurs, c'est qu'il y a quelque chose qui est aussi très dur, c'est que quand t'as fait 20 ans d'entrepreneuriat, ça fait partie de toi, c'est-à-dire que créer, être à la tête de tes projets, tester des choses, etc. Et t'as beau avoir gagné de l'argent, devenir investisseur, tu vois, vivre ta vie à la cool, au bout d'un moment, ça tronche l'idée de... Parce que c'est une énergie, en fait. C'est une énergie. L'énergie créative, de création, c'est une énergie. Et quand t'as goûté à ça... Ça fait partie de toi et investir et coacher des gens, je l'ai fait, c'est sympa, mais au final, tu as envie de vraiment revenir à avoir ton truc, tu vois. Et là, je le vois, je suis pas vieux, j'ai 37 ans, mais mais j'ai une énergie à me lever le matin qui est boostée par ça, tu vois. Et ça fait partie de mes sept énergies, donc il y a bien manger, bien boire, bien manger, le sexe, la spiritualité, mais l'énergie de création, je pense qu'elle est clé. Ouais. De créer un truc. Alors, il y en a, ça peut être créer une famille, il y en a, ça peut être créer des projets, je sais pas, immobiliers ou quoi que ce soit. Moi, c'est l'entrepreneuriat et j'ai des amis qui sont un peu en déprime à cause de ça, tu vois.
Ouais. Ouais, l'idée, c'est vraiment de trouver, en quoi tu peux, performer et dans lequel t'es bon et dans lequel tu aimes faire ça, en fait.
Ouais, trouver un sens à tes journées, tu vois. Et c'est pas facile parce que tu dis ouais mais il faut que ça soit plus gros ou moi j'ai quand même besoin d'un gros salaire ou attends ou il y a aussi j'entends souvent c'est que ouais je me suis quand même fait chier pendant 10 ans maintenant je veux que ça aille plus vite j'ai pas envie de faire ci j'ai pas envie de faire ça et en fait bah si tu refais quoi.
Ah oui, et puis t'es obligé à un moment donné de faire de mettre des efforts dans ce sur quoi t'as envie d'aller, tu vois, c'est évident quoi. Et la dernière question pour cette partie bilan, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui?
Le premier truc qui me soit venu en tête, c'est je suis fier de ce qu'on est en train de construire avec mes associés, avec Adrien. Tu vois, Adrien, c'est une très belle histoire. C'est-à-dire, je l'ai recruté en tant que social media manager pour un média social shopping qui a pas fait long feu. Il y a maintenant peut-être 6 ans de ça. Il a gravi les échelons chez Minbuzz. Au final, on remonte une boîte. Ça fait 2 ans. On n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On s'entend super bien. On est très différents, mais donc je valorise vraiment ce côté humain de l'aventure où je crée des trucs avec des potes quoi. En fait, Adrien est devenu un pote et on prend du plaisir quoi. Et ça je suis fier d'avoir pu offrir ça quelque part à Adrien, qui goûte à ce côté aventure, qu'on le fasse ensemble. Et donc je suis fier de Timeless, clairement. Timeless, je suis fier. Et encore une fois, tu vois, c'est ce que je disais quand j'ai quitté Minbuzz, j'ai l'impression de plus être rien parce qu'on me demande ce que tu fais, mais en vrai c'est vrai, Timeless c'est ma vie, je parle que de ça tout le temps. Et même le matin, j'ai envie d'aider des milliards de personnes à se reconnecter entre eux, tu vois. Donc, il y a un vrai truc où, ouais. Et l'autre chose aussi où je suis fier, c'est ce côté, en fait, ces rêves, parce que c'est sans expérience, mais en 2 ans, j'ai eu un changement de vie colossal. C'est-à-dire, j'ai changé ma façon de manger, de bouger, j'ai un chapeau, j'ai un tatouage, j'ai arrêté, je me suis mis à lire, à écrire, j'ai fait mon podcast, ma newsletter, j'ai appris des langues qui m'ont ouvert sur le monde, je baragouinais un peu en anglais, maintenant je suis complètement bien. Enfin, donc je suis fier de m'être montré à moi-même que ouais, on peut changer si on a envie. Si on a envie.
Tout ça, c'est sûr.
Non mais ça peut paraître con, et c'est un des bouquins que j'ai lu là la semaine dernière sur un philosophe qui s'appelle Alder. En fait, ça part que d'une décision. Et le problème, c'est qu'est-ce qui bloque la décision? Mais une fois que t'as pris la décision, en fait, tu peux changer, tu vois. Et c'est top. Et ouais, j'ai une chance, je me dis toujours, j'ai une chance de ouf, quand même. Merci papa, merci maman. C'est le moment où je le place, non?
Dédicace.
Dédicace.
On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, sur un peu ta vision de l'entrepreneuriat. La première, c'est... Alors, est-ce que tu peux me citer une rencontre qui a marqué ton aventure ?
La première rencontre qui a changé ma vie d'entrepreneur, c'est Laure Lefebvre, avec qui j'ai monté Mindbuzz. Parce que du petit entrepreneur margoulin qui fait des teufs, tu vois, j'ai rencontré Laure et ça a cimenté... c'est une de mes plus belles relations, Laure. Ça fait 12 ans qu'on se connaît, on est passé par des phases de haut et de bas, mais comme Jaja, et on se considère maintenant comme frère et sœur, on s'appelle souvent, je la prends à chaque fois, je la vois, donc, et c'est grâce à elle qu'on a créé Mindbuzz, comme, enfin, c'est vraiment l'association des deux, quoi. Donc, sans elle, j'aurais pas fait Mindbuzz, et sans moi, il n'y aurait pas Mindbuzz, mais si tu veux, c'est vraiment elle qui a fait ça. Après, tu vois, si je prends un peu dans l'ordre, j'ai Sarah Chouraki qui a repris le rôle de DG chez Mindbuzz quand on a fait le rachat TF1, qui a apporté énormément de structuration. Et c'est là où tu te rends compte que les gens qui ont fait des grandes écoles, quand même, ça déroule. Et après, ouais, Adrien, parce que en fait, quand lui, il était en train de déprimer en période de pandémie, et je lui dis, mec, tu sais tout faire, vas-y, viens, on fait un MVP de ce truc-là, quoi. Et il a dit oui, il a répondu oui, et il l'a sorti, et donc. Tu vois, c'est la vie, c'est une succession de points. Et en fait, t'as des points qui juste orientent différemment. Et donc, ouais, en termes d'entrepreneuriat, en tout cas, c'est vraiment ces personnes-là qui ont cranté. Et après, ça va être bien ce que je veux dire, mais la première, ça reste quand même mon père, qui m'a toujours soutenu. Et pendant 10 ans, je dormais dans une petite chambre, dans son cabinet dentaire à Paris. Il m'a financé comme il pouvait les 2 000-3 000 euros par-ci, par-là, des fois, pour, tu vois, donc... avoir eu la chance d'avoir un écosystème qui d'ailleurs fait référence à un bouquin qui s'appelle Outliner, c'est à quel point en fait tu es blindé de privilèges, tu vois, d'être né dans une famille avec un peu d'argent, en banlieue, d'être un homme blanc, grand, enfin tout ces trucs là. Donc voilà, donc si je retrace, c'est ça, c'est merci les parents, ensuite Laure, Adrien, et après j'ai 2 potes aussi, qui Nasser et Seb, et donc Seb qui est actionnaire maintenant dans Timeleft aussi, qui ont toujours été des supports. Donc ouais, c'est un peu les gens qui ont compté pour moi dans ma vie d'entrepreneur. Et TF1.
Non, oui, bien
mais,
sûr.
Mais blague à balle. Merci TF1. Tu vois, je m'en souviens, c'est sorti de ma bouche. C'était il y a 2 ans, je pense. J'étais dans un podcast, pareil. Je fais, ouais, bah, merci TF1. Oh putain, qu'est-ce que j'ai raconté? Merci TF1. Mais en fait, ouais, merci TF1, parce que, ouais, c'est une leçon de vie qui a été une des plus, qui maintenant est une des plus belles leçons qui me sont arrivées, tu vois.
Ouais. Oui, t'ont permis de passer à autre chose, ouais, aussi, tu vois.
Et donc, on en revient à tous ceux qui subissent des trucs très durs dans votre vie d'entrepreneuriat. En fait, c'est un point. Et en fait, tout dépend de comment vous allez connecter les prochains points qui vont arriver, tu vois.
La deuxième question, elle est très reliée à ça. C'est, est-ce que le mindset est la chose la plus importante chez un entrepreneur? Plus que les compétences, plus que...
Ouais,
plus
que... Alors, je sais pas si tu mets la résilience dans le mindset, mais...
Bien sûr. Je pense que la résilience est complètement intégrée dans le mindset.
C'est la vie, c'est dur, et entrepreneur, c'est encore plus dur. Franchement, c'est t'as rien qui joue en ta faveur. Tu sais, un peu moins maintenant, mais t'as eu cette vague pendant les 2-3 dernières années là où ouais, en fait j'aime pas mon job, je vais devenir entrepreneur. Mais mieux vaut être dans un job que t'es moyen que d'être entrepreneur d'une boîte qui marche pas. Enfin, on a surmarketé tous ces succès, tous ces gens, et c'est très bien. Il y a plein d'entrepreneurs qui réussissent, mais c'est que dalle. Les maths jouent contre toi. 99% des boîtes ne voient pas les 3 ans. Je veux dire, statistiquement, t'es mort, déjà. Tout est dur, tout est compliqué. Dès que tu commences à manager, c'est l'enfer. Les taxes, les chats. Franchement, c'est très, très dur. Il y a donc ce côté-là. Après, il y a le côté impact sur le corps aussi. Moi, pendant des années, j'avais des problèmes d'intestin. J'ai fait un gros burn-out en 2012. Je suis à l'hôpital. Enfin, genre, mon corps, il était en vrac. J'ai tout testé, de me soigner, une naturopathie, des médicaments, tout, changer mon alimentation. Il n'y a rien qui marchait. Et en fait, arrêter Mindbuzz, il y a tout qui s'est réparé. Et tu te rends compte du stress. Tu travailles tout le temps comme ça. T'abîmes ton corps, quoi. Et donc, ouais, je pense que la résilience et croire en quelque chose de plus grand que toi, c'est-à-dire tu crois que tu vas changer quelque chose, mais il faut qu'il soit très haut, parce que je sais plus, j'ai entendu ça il y a 2 jours, on me dit ouais, les fondateurs, c'est quelqu'un qui est dans une boîte, si oui, les fondateurs, l'objectif c'est de revendre, donc en fait ils sont juste là pour faire du cash, cool, mais c'est pas, enfin je veux dire, à un moment quand ça va tanguer, je pense qu'il faut avoir un truc plus grand, être résilient, et je l'ai sorti il y a longtemps, je m'en souviens de ça, il faut garder la pêche.
Ouais,
tu vois. Et donc faites du sport et à une vie équilibrée, faites des trucs à côté. Enfin, tu vois, c'est un marathon, quoi. Donc ouais, résilience, je dirais.
Et la dernière question, c'est Quel conseil donnes-tu aux personnes qui se lancent justement dans l'entrepreneuriat?
One step at a time. Si vous faites un pas chaque jour, au bout d'un moment, vous arriverez où vous voulez aller. Et commencez pas trop vite. Commencez à une vitesse que vous pouvez tenir tous les jours. Et donc, commencez petit, au lieu de faire un énorme truc, commencez par faire un petit MVP, un petit prototype, puis avancez petit à petit. En fait, faut juste pas lâcher. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme le sport. C'est la même analogie. Tu veux apprendre à courir un marathon, faut savoir courir un 20 km. Tu veux savoir courir un 20 km, faut apprendre à courir 10, 5, et faut commencer petit. Et si tu cours un peu tous les jours, et c'est pour ça que j'adore mes challenges, quand j'ai appris à courir 100 km en une journée, le matin, je suis parti, je savais que j'allais le faire. Alors, j'avais perdu énormément de poids, je courais un semi-marathon tous les deux jours pendant des mois. Enfin, c'était intense, tu vois. Mais j'ai commencé par courir ces 10 km. Puis à un moment, mon coach, il m'a dit, bah, vas-y, on va augmenter. Puis au bout d'un moment, je me suis senti prêt. Et c'est là où, tu vois. Et si t'arrêtes pas, bah, au bout d'un moment, tu verras. Mais vraiment, c'est plus simple que ce qu'on pense. C'est juste décomposer dans un truc facile, tu vois. Tu veux monter ton e-commerce, bah en fait, c'est quoi monter un e-commerce? C'est Shopify, ok. Peut-être tu peux faire un premier cours de formation sur Shopify. Peut-être que tu peux essayer de vendre un ou deux produits. Peut-être tu peux faker que t'as des produits, voir si ça fait des clics. Enfin, tu vois, lire, se documenter, rencontrer des gens. En fait, il y a plein d'étapes avant de devenir entrepreneur. Il y a plein d'étapes avant de lancer sa boîte. Des fois, j'entends des... Parce que je fais du coaching d'entrepreneur et je coach aussi des gens à côté sur réaliser ses rêves. Et non, ouais, tu penses que je dois monter quelle structure? Mais à monter ta structure, il y a plein de choses avant, tu vois. Ouais, j'aimerais bien la monter à Dubaï parce que tu sais, sur l'optimisation fiscale, je fais, non, mais déjà, alors tu t'optimises à partir du moment où t'as de l'argent. Je te rassure que sur les deux premières années, il y a la chance que t'en gagnes pas, donc t'auras pas d'optimisation à faire. T'auras peut-être même un crédit d'impôt. Donc, tu vois, et je pense qu'on va trop vite. On regarde aussi souvent le produit fini, tu vois, c'est-à-dire qu'on dit, ah, j'aimerais être comme lui. Ah, mais ça fait 6 ans, tu vois. Quand les gens qui veulent se lancer sur, j'ai eu plein de gens qui viennent me voir sur les podcasts ou sur les vidéos. Ouais, tu penses que j'achète quel matos? Mais prends ton téléphone. Moi, j'ai tous mes podcasts pour aller voir sur Spotify. Ils sont faits à l'iPhone. Je recorde comme ça. Et en fait, faut se lancer. L'action, le mouvement crée l'entrepreneur, je pense. Tant que t'es en mouvement et que t'avances, au bout d'un moment, tu arriveras à faire ce que t'as envie de faire.
L'importance de faire les choses étape par étape. Et c'est vrai que beaucoup de gens veulent directement arriver à la dernière étape avant d'avoir commencé. Et ça, c'est super, nul, tu vois. Enfin, dans le sens où effectivement, il faut déjà se lancer et ensuite continuer d'apprendre, etc. Tu vois.
Et si l'étape te bloque, il faut la redécomposer. C'est le livre que je recommande à tous. Hein, c'est Atomic Habits. Il est incroyable sur ça. C'est prends un objectif, prends le mesurable. Donc, tu vas devenir entrepreneur, c'est pas mesurable. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Est-ce que t'as envie de faire un e-commerce qui vend des produits? Et donc, combien de produits tu veux vendre? Quel chiffre d'affaires? Tu vas mettre un truc et décompose. Et si à un moment, tu vois que t'es en inaction ou que t'es en échec, bah, redécompose. Je sais pas, tu veux essayer de lancer ton Shopify. Je sais pas pourquoi j'ai Shopify en tête, mais tu veux lancer ton Shopify, au bout de 3 semaines, tu l'as toujours pas lancé. Et bah, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que t'as pas craqué avant. Et donc, c'est peut-être faire des formations. Ok, bah, la prochaine étape ce soir, c'est de trouver quelle est la formation que t'as envie de faire, tu vois. La même analogie pour lire un bouquin. Il disait, ouais, j'ai envie de lire un bouquin par semaine. Le mec, il se lève un matin et boum, il essaie de lire à fond. Il avance. Puis au bout de 4 jours, il craque. Bah, parce que t'as pas stabilisé déjà de lire, tu vois, 10 pages par jour. Ouais. Puis 15, puis 20, tu vois. En fait, ça marche pour tout. C'est un peu ma méthode. D'ailleurs, je l'ai fait un TEDx sur le sujet. S'il n'y a pas eu Covid, j'aurais réalisé un de mes rêves supplémentaires. Mais c'était how to achieve absolutely anything without any motivation. Je pense que c'est pas un sujet de motivation. C'est un sujet juste de décomposer, faire un pas à la fois.
Tu vois, c'est exactement ce que j'ai appliqué sur le podcast. C'est-à-dire qu'au départ, en 2017, j'avais aucune expérience en interview, en audio. J'avais pas de thunes, j'étais étudiant. Et je me suis quand même lancé comme ça très rapidement. Et aujourd'hui, la question que je reçois le plus, c'est comment est-ce qu'on monétise son podcast? Alors que c'est des gens qui n'ont pas encore lancé leur podcast, mais qui pensent déjà à l'aspect monétisation. Et en fait, pour monétiser son podcast, déjà, il faut avoir un podcast qui a déjà une vingtaine, trentaine d'épisodes, etc., un certain nombre d'écoutes, un certain nombre d'invités, une certaine légitimité aussi. Et cette légitimité, tu vas l'acquérir justement en faisant et pas en pensant directement à l'argent et voilà, quoi.
Ouais. Mais ça, j'ai appliqué sur tous mes challenges, que ça soit faire un combat de boxe, escalader Mont Blanc, lire, même monter Timeless en finale. On s'est dit, on va faire un MVP. Avant de faire un MVP, on a fait une landing page, on a faké le truc en disant, hey, mets ton mail et t'auras accès au truc. On a vu qu'il y avait 500 mails, on s'est dit, ok, il y a une traction. Donc, il faut décomposer. Et faire un mouvement à chaque fois.
Eh bien, on va pouvoir conclure avec la dernière partie de notre échange.
En 47 questions.
Exactement, 60 questions en 60 secondes.
Allez, c'est parti.
Non, je rigole. Évidemment, t'as le temps d'y répondre. La première, c'est est-ce que t'as un livre à me conseiller?
Bah pour ceux qui l'ont pas lu, Atomic Habits, hein, fait quand même partie des grands classiques qui est dans mon top 5. J'ai le prénom, c'est Olivier, mais j'ai pas le nom de famille. Et son livre, c'est 4000 semaines. Donc j'ai vraiment redécouvert cette notion de le temps qui est limité. Et en fait, c'est pas une question de vouloir tout faire, mais de savoir ce que t'as vraiment envie de faire. Donc ça m'a pas mal aidé. Et le dernier là que j'ai lu la semaine dernière, c'est comment apprendre à ne pas être aimé par les autres. C'est une philosophie sur ce philosophe Adler qui est vraiment très très sympa. Et je le cite de temps en temps parce que je trouve qu'il est cool, mais le film de Goggins, le bouquin de Goggins, comment il s'appelle, You Can't Hurt Me de David Goggins, qui est pour moi un alien, un extraterrestre. Et je trouve que voilà, tu tapes des barres quand tu lis le bouquin, ça te fait réaliser que t'es un peu une merde, mais c'est cool.
Ça fait du bien parfois.
Ouais, ça fait du bien. Donc c'est des Atomic Habits, c'est franchement le bouquin à avoir au moins lu une fois, je pense. Okay. C'est le seul bouquin de ma vie que j'ai lu deux fois d'ailleurs, en français et en anglais, parce qu'il est puissant quoi. Et d'ailleurs, c'est hallucinant, je crois qu'il a 75 000 reviews sur Amazon, c'est un truc de fou.
Ok, alors.
Des millions de... Ouais, très, je conseille.
Je note. Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller?
Je regarde pas beaucoup de trucs, pour être honnête. Mais la dernière série que j'ai vue qui était assez sympa, c'était Battle for Uber, Super Pump, sur l'histoire
ah,
de
ouais,
Uber.
J'ai commencé.
Ouais.
C'est pas mal.
Voilà, ça. C'est très mec, très mec testostérone, hein, mais t'as envie de conquérir le monde à la fin de ce truc-là. Donc ça c'était assez cool et non je regarde pas de films et pas de
non mais écoute ça me va très bien. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée?
Ouais, mais comment ça va?
Comment ça va?
Ouais, comment en fait la vie d'entrepreneur c'est quand même vraiment fait de haut et de bas, et là on fait un podcast, tout est beau, on parle de cool trucs cool et machin, mais c'est quand même une vie assez teintée de moments durs et mentalement assez dur, tu vois, que ça soit moi personnellement, tu vois, bah je suis toujours célibataire, j'ai pas d'enfants, j'ai 37 ans, donc c'est des choix de vie quand même, enfin je dis, y a pas d'entrepreneurs qui ont des enfants, je dis pas, mais je trouve que l'entrepreneuriat ça prend une telle partie de ton temps à dispo que on oublie parfois que c'est des trucs que tu pourras pas faire à côté, tu vois. Et
c'est beaucoup de sacrifices.
Ouais, c'est beaucoup de sacrifices et souvent je suis heureux et je suis fier et tout ça, mais il y a aussi quand même pas mal de moments et on parle vraiment de plusieurs fois dans la journée, hein, tu vois, des petits pics où tu te demandes ce que tu fais là ou est-ce que t'aurais pas mieux fait de faire autre chose. Donc ouais, c'est, il y a une sorte de, tu sais, c'est très positif puis c'est négatif, très positif, tu vois, il y a des petits trucs comme ça, des petites générations, je trouve. Et ouais, et donc là ça va. Mais ce matin, il y a des moments où ça allait pas, et tu vois. Donc, je sais pas, c'est un truc qui m'est mis comme ça en tête.
Mais tu vois, cette question, comment ça va, elle est devenue très banale, en fait. On se pose tout le temps cette question sans ouais, attendre de réponse,
va,
tu vois.
Ouais.
Ça va? Oui, bah oui.
Ouais. Bah, moi, la question que je dis souvent, c'est comment ça va de 1 à 5? Et 1, c'est genre la pire journée de ta vie, 5. Comment ça va, François, de 1 à 5?
4.
4. Qu'est-ce qui te manque pour aller à 5?
Franchement, j'en sais rien.
Tu vois. En vrai, je trouve cette question est trigger, parce que quand on dit 4, généralement, c'est plutôt que ça.
Ah oui, ouais.
Tu vois. Et quand quelqu'un dit 3, c'est que, tu vois, ça, alors s'il dit 2, c'est chaud, mais.
Ouais. Et 1, c'est. Ouais.
On en parle.
Il me reste deux questions. La première, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes?
Sébastien Lucas. Alors, j'ai un biais, hein, c'est un de mes meilleurs potes, mais c'est un des entrepreneurs les plus smart que je connaisse. Alex ISD de Voodoo.
Ah ouais.
Rocket Star, le mec, il a créé une comète. Donc, je le connais un peu, mais je connais pas vraiment l'histoire de Voodoo. Et ça serait intéressant d'avoir ce parcours-là, tu vois. Qui est quand même un truc, monstrueux. Et au Capitaine, j'ai un mec qui m'apprenne pas mal, c'est Benjamin Chemla de Shares.
Ouais.
Qui lève des fonds, attire l'arigot, en quelques mois, il boum, 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 le mec il crante et je suis bluffé par sa capacité d'exécution, tu vois, de lever 50 millions en 18 mois, d'avoir embauché 500 personnes, enfin, je
Elle est très vite.
Ouais, très très vite. C'est le mec qui a fait Stuart, qui a été racheté.
Ah, ok. Oui, je crois que c'est la poste, ouais.
Donc voilà, c'est les trois que je pourrais te citer.
Très bien.
Voilà.
Et la dernière, c'est quoi pour toi un entrepreneur?
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a appris à entreprendre. Non, mais on en vient à ce que je te disais, c'est... En fait, on est tous entrepreneurs. On sait tous entreprendre. Tu vois, il y a des gens qui savent entreprendre. Je sais pas, sortir sa voiture et la laver, c'est une entreprise. Tu veux faire... Tu vois, c'est une entreprise dans le sens, c'est une aventure, tu vois. Et je pense qu'on est tous entrepreneurs. et qu'il n'y a pas l'entrepreneur et le non-entrepreneur. Il y a juste l'entrepreneur qui a plus d'expérience, qui est, et comme le sport encore, moi c'est la même analogie quoi. T'es un entrepreneur, je suis un entrepreneur, et un mec qui va lancer son podcast demain, bah il va se mettre dans l'idée d'entreprendre quelque chose. Et peut-être qu'à un moment il va arrêter. Alors ouais, t'as moins la notion d'entrepreneur, je trouve, en tant que salarié, mais ça reste de l'intrapreneurial, c'est-à-dire que tu t'entreprends des projets, tu mènes à bien des choses à l'intérieur d'une plus grande entreprise que toi. Mais je pense qu'on est tous entrepreneurs et je trouve qu'on a trop mis une image, tu vois,
de sacraliser
ce truc du mec qui sait ce qu'il fait, qui est le CEO de sa boîte avec sa casquette. Non, en fait, on est tous entrepreneurs et un truc qu'on oublie, putain, il y a des entrepreneurs, les mecs qui font le pain, les plombiers, tous ces PME, enfin, il y a des mecs qui ont ils entreprennent et d'ailleurs, ils sont même sur la longue durée, ils sont plus successful que la plupart des start-upers, tu vois.
Exactement.
Je trouve que dans le milieu, on associe trop souvent entrepreneur à start-upper déjà. Alors que tu vois, il y a des gens qui ont des... Moi, j'en rencontre plein de gens à Lisbonne, en général, et qui ont des petites boutiques de céramique et qui ont lancé des trucs d'usine à vin, de cultive de champignons que tu manges. Enfin, que tu manges, mais qui font rien après. Je sais pas comment les dire.
On précisera dans le podcast.
Ouais, en bas, 5 fruits et légumes par jour. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait entreprendre. Et qui sait entreprendre de manière plus ou moins efficace, de manière plus ou moins expérimentée dans certains sujets. Moi, entreprendre sur monter un projet immobilier, je suis une quiche, je sais pas faire quoi. Entreprendre sur comment exposer sa marque sur les réseaux sociaux, ok, cool, tu vois. Même le sport. Entreprendre de, moi je suis un entrepreneur de mon corps. J'entreprends d'être une meilleure version physique de moi-même depuis 2 ans maintenant et ça se passe plutôt bien. Mais c'est un projet, c'est-à-dire je l'entreprends tous les jours, tu vois.
Bien, ce seront les mots de la fin. Je pense qu'on est pas mal sur cette discussion. J'espère que ça t'a plu.
Ouais, merci. Je suis trop content, comme je t'ai dit en préambule, de faire un podcast face à face. Back in the time.
Ça fait du bien. La vision, c'est cool, mais le physique, c'est quand même plus cool.
Ouais, c'est vrai.
T'imagines, si toutes tes expériences étaient en visio, ce serait quand même chiant. Hein, de ouf.
Ah, on sait tous que la visio, elle est complètement changée, mais ouais. On a quand même des besoins en tant que...
Bien sûr.
Yes.
Bah, merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Ciao.